Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mardi 23 mars.
Washington inculpe le Nord-Coréen extradé depuis la Malaisie pour blanchiment d'argent. Kim Jong-un et Xi Jinping plaident pour un renforcement des relations bilatérales. Élection à la mairie de Séoul, Oh Se-hoon, candidat officiel de l'opposition conservatrice. Enfin, Covid-19, le nombre quotidien de cas positifs se maintient entre 300 et 400 depuis plus de 2 mois.
On ouvre ce journal avec le dossier nord-coréen. Le département américain de la justice a inculpé le nord-coréen Moon Chol-myung, extradé la semaine dernière depuis la Malaisie. Cet homme d'affaires de 55 ans est notamment soupçonné d'avoir blanchi de l'argent à travers le système financier américain et ce pour expédier des produits de luxe vers son pays, ce qui constitue une violation des sanctions onusiennes et américaines contre Pyongyang. Concrètement, selon l'acte d'accusation, Moon a blanchi de l'argent ou tenté de le faire à 6 reprises entre avril 2013 et novembre 2018. Ces transactions illicites sont liées au Bureau général de reconnaissance, un service de renseignement emblématique du régime nord-coréen, et leur montant est estimé à plus d'1,5 million de dollars. Pour rappel, Moon a été extradé vers les États-Unis le 17 mars suite à une décision de la justice malaisienne, 2 ans après avoir été arrêté dans ce pays d'Asie du Sud-Est où il vivait depuis une dizaine d'années. Pyongyang a vivement réagi pour annoncer le 19 mars la rupture de ses relations diplomatiques avec Kuala Lumpur.
L'Union européenne a décidé d'imposer des sanctions contre 11 individus et 4 entités de 6 pays, à savoir la Corée du Nord, la Chine, la Russie, la Libye, l'Érythrée et le Soudan du Sud, pour violation massive des droits de l'homme. Parmi eux figurent une institution et 2 hauts responsables nord-coréens. Il s'agit du parquet central, du ministre de la Sécurité d'État Chung Yong-taek et de celui de la Sécurité sociale Lee Yong-il. Côté chinois, les pénalités visent notamment 4 responsables de la région du Xinjiang, impliqué dans la répression de la minorité musulmane des Ouïghours.
Le Conseil des droits de l'homme, une instance onusienne basée à Genève, devrait adopter aujourd'hui une résolution condamnant les violations systématiques et généralisées des droits de l'homme en Corée du Nord. Un texte qui demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de traduire le régime de Kim Jong-un devant la Cour pénale internationale. Il a été proposé par un total de 43 États. La Corée du Sud ne l'a pas parrainé depuis 2019 et elle a pourtant approuvé son adoption. Un modus Vivendi trouvé afin de ne pas irriter le pays communiste. Or, cette année, la donne a changé. Les États-Unis ont rejoint pour la première fois en 3 ans les pays qui proposent la résolution et continuent de hausser le ton contre la gravité des violations des droits humains commises au nord du 38e parallèle. Séoul se sent donc tiraillé entre son allié américain et son voisin du nord, avec lequel il ne renonce toujours pas à renouer le dialogue. Cette année encore, il ne fera que voter le texte sans participer à sa proposition, selon un responsable du ministère des Affaires étrangères.
Le ministre sud-coréen de la réunification a affirmé croire que la Corée du Nord et les États-Unis avaient commencé à s'explorer l'un l'autre et de souhaiter que ces 2 pays ne perdent pas de temps inutilement avant de renouer un dialogue substantiel. Lee In-yang a fait ses remarques lors d'une interview aujourd'hui avec la chaîne d'information continue Yonhap News. Pour le ministre, la semaine dernière, la première vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choi Sun-hee a lancé un avertissement à Washington et le secrétaire d'État américain Antony Blinken a lui tenu des propos critiquant la situation humaine dans le pays communiste lors de son voyage à Séoul, tous deux dans le cadre d'une telle exploration. Et le régime de Kim Jong-un comme l'administration Biden doivent entamer le dialogue, même si les conditions nécessaires pour ces pourparlers sont satisfaites seulement à 70 ou 80%. Toujours selon cet ancien étudiant activiste devenu homme politique, si Washington soutient le rôle de Séoul dans l'assistance humanitaire à la population nord-coréenne et que Pyongyang fait preuve d'ouverture d'esprit à cet égard, cela aidera à créer une atmosphère propice à de nouvelles discussions nord-coréano-américaines.
Le dirigeant coréen et son homologue chinois ont échangé hier des messages verbaux visant à promouvoir l'alliance de leur pays. Selon l'agence de presse nord-coréenne KCNA, Kim Jong-un a fait part à Xi Jinping des grandes lignes du 8e congrès du Parti des travailleurs dans le but de renforcer la communication stratégique bilatérale en s'appuyant sur leurs relations solides. Il s'agit des décisions portant sur le développement des forces militaires et les relations avec Séoul et Washington. L'homme fort de Pyongyang a souligné que les deux alliés devraient relever d'un cran leur coopération pour faire face aux défis et aux entraves des pays ennemis. Xi Jinping, à son tour, a célébré l'exploit du récent congrès du régime nord-coréen. Dans son message oral, il y a manifesté son intention de consolider les relations bilatérales en phase avec le nouvel ordre international afin d'offrir une meilleure vue à leur peuple. Le président chinois a également ambitionné de contribuer à l'installation de la paix dans la péninsule coréenne et à la prospérité dans la région, alors que la situation politique est en grande mutation à l'heure actuelle.
La Corée du Nord continue de déjouer les sanctions internationales pour importer l'an dernier encore beaucoup plus de pétrole raffiné qu'autorisé par le Conseil de sécurité de l'ONU. À en croire les derniers rapports du Royal United Services Institute, un think tank britannique spécialisé dans la défense et la sécurité, et le rapport de l'Institut C4ADS de Washington, en 2020, 614 000 à 1 105 000 barils lui ont été livrés via notamment des transbordements illicites en mer. Si on les additionne à la quantité indiquée sur le site web du Conseil, les cargaisons peuvent atteindre jusqu'à 2 332 000 barils, soit 4 fois plus que le plafond fixé par l'ONU. Selon la résolution 2397 de celle-ci, Pyongyang est autorisé à acheter jusqu'à 500 000 barils par an et tous les membres de l'organisation internationale doivent informer tous les 30 jours de la quantité des produits pétroliers qu'ils ont exportés vers le royaume ermite ainsi que leur montant.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Nous passons à présent à la politique intérieure. Fini le suspense. Le candidat du Parti du pouvoir du peuple PPP, Oh Se-hoon, l'a emporté sur son concurrent Ahn Cheol-soo du Parti du peuple PP pour représenter l'opposition conservatrice dans la course à l'hôtel de ville de Séoul. Cette décision a été prise sur la base du résultat des sondages effectués hier par téléphone mobile à près de 3200 habitants de la capitale. Le premier aurait été donné vainqueur avec une longueur d'avance sur le second. Dans un discours qu'il a prononcé aussitôt après la publication des résultats, Oh s'est engagé à respecter coûte que coûte l'ordre des citoyens de sanctionner le pouvoir actuel et d'ouvrir la voie à l'alternance politique. Il brigue un troisième mandat de maire de Séoul. De son côté, le postulant malheureux a pris acte du choix des électeurs sondés et promis de faire de son mieux pour la victoire de son désormais ex-rival. Dans le camp du Minju, la majorité présidentielle, sa candidate unique appelle à la solidarité de toutes les formations proches du pouvoir pour gagner le scrutin. Selon Park Yong-sun, c'est un duel entre elles qui incarne le futur de la capitale et l'ex-maire qui a échoué à la diriger. À noter que les élections locales partielles seront organisées le 7 avril dans un total de 21 circonscriptions à travers le pays.
Crise sanitaire à présent, conformément à la recommandation du comité d'experts, la vaccination anti-Covid avec AstraZeneca s'ouvre aujourd'hui pour les résidents âgés de 65 ans et plus et pour les employés des quelques 1651 unités de soins de longue durée du pays. Quelques 206 000 personnes sont concernées, un peu plus de 75% de leurs pensionnaires ont déjà donné leur consentement contre 93% chez les moins de 65 ans de ces mêmes unités de soins. Explication à cette différence, l'inquiétude sur le sérum produit par le laboratoire suédo-britannique et l'état de santé des résidents des établissements. Comme annoncé, le président Moon Jae-in et son épouse ont aussi reçu aujourd'hui une première dose d'AstraZeneca avec un objectif double, rassurer ses concitoyens et pouvoir se rendre au Royaume-Uni où aura lieu le sommet du G7 en juin. Outre les pays membres des chefs d'État ou de gouvernement des sept grandes puissances de la planète, la Corée du Sud, l'Australie et l'Inde sont en effet invités à se joindre aux discussions.
Enfin, pour terminer, 346 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés ces dernières 24 heures. Le virus continue de se propager sur les lieux de travail, dans les bains publics, les crèches et les salles de sport fermées. La campagne nationale de vaccination se poursuit depuis son lancement le 26 février. Quelques 9800 cas d'effets secondaires du vaccin ont été signalés. Le Premier ministre a exprimé aujourd'hui son inquiétude à l'égard du fait que 3 à 400 individus sont testés positifs chaque jour depuis plus de 2 mois et que le taux de reproduction reste supérieur à 1 depuis 2 semaines. Chung Se-gun a d'emblée renouvelé son appel à une prévention participative de l'épidémie et à la vaccination anti-Covid.
C'est la fin de ce journal présenté par Yoon Hae-jung et Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée à tous.